Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien parce que dans quelques instants, je vais parler avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle s'appelle Edith Lemay. Peut-être que ce nom-là n'est pas vraiment, fait pas partie de votre quotidien, mais quand je vais vous raconter l'histoire d'Edith Lemay, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de cette histoire-là ». T'as tout à fait raison, Sophie, d'avoir beaucoup d'admiration pour cette dame. Donc, Edith Lemay est partie en voyage depuis un an. En fait, elle est partie en voyage le mars 2022 autour du monde avec ses quatre enfants, parce que trois de ses quatre enfants sont atteints d'une maladie dégénérative des yeux. Donc, d'ici l'âge de 30 ans, ils ne verront plus rien. Ils vont devenir aveugles. Donc, Edith Lemay s'est dit, ben, avant que la vue disparaisse, on va leur remettre plein la vue à ces enfants-là. On va les amener partout à travers le monde, leur apprendre aussi la résilience. Edith Lemay, donc, s'apprête à mettre la boucle finale à ce voyage. Mais avant, elle a accepté de nous parler. Madame Lemay, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, vous êtes où d'abord en ce moment?
On vient d'arriver il y a quelques heures en Égypte. On est au Caire.
Bon, ben écoutez, bonne salam alaikum.
Alaikum salam.
Voilà, exactement, vous avez tout compris. Je regarde la liste là, des pays où vous êtes allés avec vos enfants. C'est complètement, complètement délirant. Je vais les nommer parce que juste les nommer, ça nous fait rêver. Namibie, Tanzanie, Zambie, Turquie, Mongolie, Indonésie, Malaisie. Là, c'est pour les mots en I. Thaïlande, Cambodge, Laos, Népal, Oman. Et là, vous êtes en Égypte. Si on devait vous demander, évidemment, c'est comme choisir entre un de ses enfants, mais le pays qui, pour vos enfants, a été le plus dépaysant, qui ressemblait le moins au Québec.
Ouf, dépaysant, je sais pas, ils ont tous été dépaysants à certains niveaux. Je crois que la Mongolie a été celui qui était un petit peu plus difficile.
Difficile, expliquez-moi pourquoi.
Au niveau de la nourriture, c'était un petit peu plus difficile, puis c'était vraiment des conditions, on vivait avec les gens dans les yourtes, donc il y avait souvent pas d'eau courante, donc c'était un peu plus basique comme condition, fait que... Ça a été une adaptation.
Ouais, je comprends. C'est drôle que vous mentionniez la Mongolie, parce que je regardais la liste et je me disais, ça doit être la Mongolie, parce que ma sœur est allée en Mongolie et exactement la même chose. Elle disait vraiment manger de la viande de yak, c'est ça hein, qu'on mange en Mongolie.
C'est beaucoup de moutons aussi.
Oui,
c'est
assez particulier. Donc, est-ce que pendant cette année-là de voyage, est-ce que la condition physique de vos enfants, trois de vos quatre enfants qui ont des problèmes oculaires, est-ce que leur condition s'est aggravée ou c'est vraiment quelque chose qui va se produire beaucoup plus tard dans leur vie?
C'est vraiment très, très graduel. Donc, on n'a pas vu de progression pendant le voyage. Il y a juste ma fille qui a une sensibilité à la lumière qui est accrue. Donc, c'est sûr que pendant le voyage, on le voyait un petit peu plus là, parce qu'il y avait souvent beaucoup de soleil.
Mais donc, ça n'est pas quelque chose qui qu'on pourrait voir, mettons, si on les côtoie au quotidien. C'est vraiment sur le long terme. Les enfants savent, évidemment, pour quelles raisons ils voyagent et ils savent aussi ce pronostic. Ils savent ce qui les attend. Est-ce que le fait d'avoir fait ce voyage-là pendant un an a changé leur perspective? Puis je m'excuse, je vais utiliser un mauvais jeu de mots, mais leur façon de voir les choses.
C'est dur à dire à ce moment-ci parce qu'on est encore tellement dans le voyage. Pour eux, ça fait partie d'eux. Ils savent depuis qu'ils sont tout petits, donc cette condition-là, ça n'a pas changé. Ils savent que ça s'en vient. Ce que j'espère que ça leur a donné, c'est vraiment des outils pour être plus résilients, pour s'adapter. Parce que pendant un an, on a vécu tellement de choses. J'espère que ça va les aider à mieux s'adapter à différentes situations dans le futur.
Oui, parce que quand on voyage, surtout quand on voyage dans des pays où on n'est pas justement dans des conditions 5 étoiles, on apprend le système D, on apprend la débrouillardise et ils vont en avoir besoin quand ils vont avoir la trentaine et qu'ils vont 3 sur 4 quand même devenir aveugles. C'est énorme comme statistique, là.
Oui, c'est une mauvaise lotogénétique.
Oui. Vous, on parle beaucoup de vos enfants, mais vous, qu'est-ce que cette année-là, puisque le voyage tire à sa fin, qu'est-ce que ça a changé chez Edith Lemay? Qu'est-ce qui a changé, vous, dans votre façon de voir les choses, encore une fois?
Ben moi, je pense que c'est beaucoup dans la dynamique familiale que ça l'a changé, parce que c'est sûr que de passer 24 heures sur 24 avec les enfants pendant plus d'un an, on apprend à mieux connaître ses enfants, parce qu'on se rend compte que dans un quotidien, on ne passe pas tant de temps que ça avec eux. Puis aussi, on vit tellement proche les uns sur les autres, toujours dans la même chambre, que quand on a des problèmes, on doit vraiment apprendre à travailler sur ces problèmes-là, les problèmes de communication. Donc, je pense que ça va avoir resserré les liens de la famille.
Et ce qui est formidable, c'est que pendant tout ce temps-là, pendant toute cette année-là, sur les médias sociaux, vous nous avez alimenté. On a pu suivre votre périple avec des photos, des fois des petites vidéos. Et moi, je regardais ça aller, puis je me disais, mon Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui raconte leur histoire. Mais ce ne sera pas une maison de production québécoise qui va raconter votre histoire. Ça, est-ce que c'est un petit peu décevant pour vous?
Vous parlez de quel projet, là, exactement?
J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se préparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les Américains qui vont raconter votre histoire?
C'est possible, oui. Il y a un projet en cours, mais ça a été... Il y a eu plusieurs tentatives de projets au Québec avant le départ, mais avec la pandémie, tout ça, puis il y a plusieurs boîtes de production qui m'avaient abordé, mais ça a juste pas fonctionné, là. Donc il y a d'autres gens qui se sont présentés.
D'accord. Donc, je sens une réticence de votre part. Ça veut dire que je sais peut-être des choses dont vous n'avez pas envie de parler pour l'instant, mais c'est sûr que...
Je peux pas parler pour le moment encore.
Je comprends.
Assez concret.
D'accord, mais je le respecte, Madame Lemay, puis je voulais pas du tout vous mettre dans l'embarras d'aucune façon, mais c'est sûr que si j'étais productrice à Hollywood, je lirais « A family of 4 children, 3 of the children are going to go blind in their 30s ». Je n'ai pas besoin d'être un gros cerveau à Hollywood pour dire « Ça, c'est une histoire pour Hollywood, mesdames et messieurs ». Je veux dire, au-delà de votre histoire, vous vous rendez compte que c'est sûr que partout à travers la planète, les gens vont être touchés par votre histoire.
Ouais, mais moi, ça m'a énormément surpris. Je suis partie en voyage, j'ai parti ma petite page pour informer ma famille, mes amis, puis là, ça a pris une ampleur que j'ai jamais vue venir, puis j'aurais jamais pensé que ça prendrait cette ampleur-là.
Quel genre de témoignages vous avez reçu de gens qui, justement, suivaient le périple de votre petite famille? Quelque chose qui vous aurait surpris ou qui vous aurait particulièrement touché ou bouleversé?
Tellement toutes sortes de témoignages, autant des gens qui me partagent que eux ils vivent avec la rétinite, puis qu'ils ont des super belles vies, donc ils essaient de me partager de l'espoir, ça j'apprécie beaucoup, que des gens qui ont été touchés pour différentes raisons, puis beaucoup de gens aussi qui veulent nous offrir quelque chose, qui nous invitent dans leur chalet en Grèce,
à
toutes sortes d'endroits, mais des trucs qui viennent du cœur, je trouve ça tellement touchant, tous ces gestes-là, ça nous a beaucoup touchés.
Est-ce que ça vous a surpris dans la mesure où on vit dans un monde quand même très individuel, puis là, de voir que votre histoire a pu toucher des parfaits inconnus, dans le fond, ça redonne foi. En tout cas, moi, vous entendre, Edith, ça me redonne foi dans l'humanité. J'ai tendance à être plutôt cynique et pessimiste, mais...
Moi, j'ai trouvé ça beau. C'est pour ça aussi que j'ai continué autant de partager mon histoire, parce que la réaction des gens, je trouvais que ça apportait quelque chose de beau. Puis je trouve que, surtout après les deux, trois dernières années qu'on a eues, on avait besoin de ça. Fait que j'aimais beaucoup la réaction des gens, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup partager mon histoire, parce que j'ai l'impression que ça apporte un peu de lumière aux gens.
Oui, puis en même temps, je vous dirais que même quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement suivi le quotidien de vos pérégrinations, il en reste pas moins que on est tous touchés par ça, parce qu'on se dit, peut-être que en effet, on prend pour acquis tout ce qu'on voit. Et toute la beauté qu'il y a autour de nous, on la prend pour acquise. Et en entendant votre histoire, on se dit, je devrais faire plus attention à ce que je regarde puis à voir la beauté autour de moi. Je sais que ça peut peut-être l'air un peu comme les cartes de souhait Hallmark, là, ce que je suis en train de raconter, mais c'est un peu ça, en fait, le cœur de votre message.
Bien, clairement, c'est vraiment le cœur de notre voyage, c'est ça, c'est vraiment d'aller voir la beauté. Puis les enfants, ils nous apprennent vraiment ça aussi pendant le voyage. Nous, on les amène voir des merveilles du monde, puis eux se retournent, puis ils vont voir un scarabée, puis pour eux, ça va être ça, le plus beau dans leur journée. Puis faut apprendre à voir la beauté à travers leurs yeux aussi.
Mais en même temps, voyager à travers le monde, Edith Lemay, ça veut dire aussi voir toutes sortes de choses qui ne sont pas belles et qui font partie du quotidien des gens à travers la planète. Et votre rôle comme parent, ça n'est pas non plus de leur cacher cette réalité-là.
Non, au contraire. Souvent, on a, je ne dirais pas rechercher ça, mais on est allé dans des pays où les conditions de vie n'étaient pas nécessairement faciles partout. Puis, je voulais que mes enfants soient témoins de ça pour qu'ils puissent apprécier leur vie après au Québec. Tu sais, que même s'ils ont un handicap, qu'après, quand tu vois que des gens doivent marcher des kilomètres pour aller à l'école, doivent pomper l'eau tous les matins, bien, qu'eux, ils apprécient leur niveau de vie au Québec. Ils se rendent compte à quel point ils sont privilégiés dans la vie malgré tout.
Oui, puis en même temps, ben il y a aussi des gens au Québec qui ne sont pas privilégiés, mais il reste que à travers la planète, en effet, tout le monde vit pas de la même façon. Et autant il y a de la beauté à voyager, autant parfois on est confronté à des réalités qui sont pas belles. Est-ce que vous vous préparez un petit peu à ce que j'appellerais la dépression postpartum, c'est-à-dire la dépression post-voyage, où justement on fait pendant la journée, on est d'abord 24 heures sur 24 avec nos enfants, il n'y a pas une journée qui est pareille, on est dans des endroits quand même exotiques, etc. Puis là, de revenir au Québec, le train-train quotidien, est-ce que vous appréhendez un petit peu ça?
Beaucoup.
Oui.
Beaucoup. Je sais que ça s'en vient. Je sais que ça va être difficile. Je suis déjà en train de me voir en train de préparer mes lunchs tous les soirs. Mais ça fait partie du voyage. Puis, on verra comment ça va aller. On va essayer de se trouver des beaux projets au retour aussi.
Mais est-ce que ça a été difficile, justement, ce projet-là, en mars 2022, quand vous avez commencé, de convaincre la famille, puis de convaincre aussi les gens autour de vous que vous étiez en train de faire la bonne affaire?
Non, j'ai pas eu de réticence. Bon, c'est sûr que les gens autour de moi me connaissent. J'ai quand même beaucoup voyagé, puis Sébastien aussi. Je pense que la raison, quand j'explique la raison pour laquelle je faisais le voyage, ben tout de suite les gens voyaient que ça avait un sens plus grand que juste de partir en voyage.
Ouais, c'est fascinant parce que bon, ça, on se parle depuis à peu près une douzaine de minutes. C'est fou le nombre de fois où dans notre conversation, et vous et moi, on a utilisé le verbe voir. Et c'est fou à quel point autant de notre expérience humaine passe par les yeux. Et même des expressions qui n'ont rien à voir avec la vue, le mot « voir » est utilisé à toutes les sauces. Donc, c'est vraiment très particulier. Vos enfants vivent avec un handicap qui a fait quelque chose qui est vraiment au cœur de l'expérience humaine.
Oui, et beaucoup aujourd'hui, avec les médias sociaux, ça passe beaucoup par l'image. Tout passe par l'image. Moi, je suis une personne qui est très affectée par la lumière. T'sais, moi, j'adore la lumière, ça affecte mon humeur. Fait que c'est sûr que pour moi, je vois ça comme quelque chose de très gros de perdre la vue, mais ça va m'ouvrir à d'autres sens, je crois, de les accompagner là-dedans.
Ben écoutez, merci beaucoup Edith, on salue vos enfants, pas seulement Mia, Colin et Laurent, mais toute la famille, on salue tout le monde et puis ben bon retour au Québec très bientôt. Ben pour l'instant, profitez, vous venez d'arriver en Égypte, alors profitez-en, allez au souk Ralel Khalili, puis allez voir les montagnes d'épices colorées, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que vous allez très rapidement, est-ce que vous allez aussi faire la vallée des rois, puis les pyramides de Gizeh, Khéops, Khéphren, Mykérinos?
Oui, c'est le plan. C'est pour ça qu'on est ici. C'est ce que les enfants voulaient voir.
Et ce qui est absolument fascinant, c'est que en Égypte, on est frappé par les couleurs. Quand on se promène dans la vallée des rois, c'est la fraîcheur des couleurs. Ça a été peint il y a 4000 ans et on a l'impression que ça a été peint la semaine dernière, que les Égyptiens sont allés chez Sico puis qu'ils ont bombardé ça de couleurs. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour votre témoignage, Edith, puis bonne fin de voyage.
Ben, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.
Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
Elle chantait « I'm coming out », mais c'est pas tout le monde qui accueille bien quand des collègues de travail font un coming out. C'est de ça que veut nous parler Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours et qui aujourd'hui nous parle pas tant de culture, mais beaucoup de société. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Sophie, ça va bien?
Ben moi, ça va très bien, mais il y a des gens dans la LNH à qui tu as envie un petit peu de passer un savon.
Comme on peut le dire, l'ouverture est encore en retard au party au niveau de la Ligue nationale.
Ouais.
Donc, oui, Sophie, rappelons-le, la Ligue nationale, dans une bonne intention, a décidé de faire des soirées LGBTQ+. Mais attention ici, on parle pas des... Parce qu'en anglais, on avait un peu l'appellation Pride Night.
Ouais.
Des soirées de la fierté. C'est pas du tout le cas. On parle plutôt des soirées où on prend plutôt l'égalité des opportunités.
Bon.
C'est-à-dire, on n'est pas dans la célébration de la différence et tout. On est simplement, on essaie de passer un message d'acceptation. Et de toute évidence, ce qui est alarmant, c'est que ça passe pas toujours. Il y a déjà, à ce jour, trois équipes, les Rangers, les Wild du Minnesota, et les Blackhawks de Chicago. Je pensais jamais énumérer des équipes de hockey ici dans une chronique avec toi, qui ont annulé leur soirée. Et donc, il y a des joueurs qui refusent de porter, disons-le, on parle pas ici de porter les couleurs pendant un match, mais plutôt pendant la pratique juste avant, pendant la période de réchauffement. C'est des couleurs LGBTQ+, le drapeau qui est affiché discrètement sur les chandails. Mais il y a des joueurs qui refusent de les porter, ces couleurs-là. Certains, ils vont de raisons religieuses, c'est-à-dire ça va à l'encontre de leurs croyances et tout. Et d'autres, certains joueurs russes, ils vont plus, eux autres, dans une loi anti-homosexuelle du Kremlin, par exemple, où ils craignent pour la sécurité de leur famille ou de leurs enfants qui habitent encore en Russie. Donc, on est dans une espèce de capharnaüm en ce moment. On a toutes sortes de réactions. La soirée des Canadiens, c'est le 6 avril prochain.
Ouais.
Et donc, ça reste à voir. Habituellement, ici à Montréal, il y a une belle ouverture et à en juger par David Savard, un des joueurs du Canadien, ouais, qui est un des leaders en ce moment dans le vestiaire, lui, il dit que ça va bien se passer. Puis même notre joueur russe à nous, qui est le nouveau joueur Gourianov, ça a l'air que lui, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ça reste à voir.
Ouais.
Mais j'ai envie de te poser une question, Sophie. Si je te disais qu'il y a 600 joueurs dans l'année nationale, combien sont ouvertement gays?
Ouvertement gays, j'ai toujours trouvé ça assez particulier comme expression. Tu veux dire qu'ils sont gays et qu'ils en parlent? Oui, c'est ça. Honnêtement, je ne sais pas, 10%, donc je te dirais 60?
Non, il y en a un seul.
Ah, ouais.
C'est le défenseur Luc Procope, qui a 19 ans, qui joue avec les Prédateurs,
ouais,
et lui a affiché son homosexualité dès son entrée dans la ligue.
Mais tu sais pourquoi je disais 10%, évidemment, parce que normalement, on dit que dans la population en général, 10% des gens sont LGBTQ. Je me disais, bon, c'est la même proportion, mais évidemment, il y en a sûrement plus qu'ils sont, mais qui ne le disent pas ouvertement. Donc, c'est là que ta question était bien formulée. Je le spécifie pour les gens qui nous écoutent, hein. Toi, tu fais partie de la communauté LGBTQ. D'ailleurs, tu nous parles régulièrement de ton mari, Andrew. Moi, je trouve absolument hallucinant quand je lis sur ce dossier dont tu nous parles aujourd'hui. Et tu mentionnais tout à l'heure des gens qui disent ça va à l'encontre de nos croyances religieuses. Donc, ces gens-là nous confirment, ces joueurs de hockey-là, comme Eric et Mark Stahl, des Panthers de la Floride, qui ont utilisé cet argument-là, sont en train de nous dire ouvertement, ben, ma religion est homophobe. Alors, est-ce que on peut donner un peu de crédit à des gens qui, comme moi, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, s'époumonent en disant Les religions sont homophobes. Je vais juste te raconter une anecdote, Patrick. Quand on s'est mariés, Richard et moi, il y a 20 ans, on a refusé de se marier catholique parce que mon meilleur ami, qui allait être mon témoin à l'église, est gay. Et moi, il était hors de question que je demande à mon ami gay, Claude, de se présenter dans une église, puis qu'il y a en face de nous un curé qui pense que mon ami est un déviant ou qui va aller brûler en enfer. Mais comment ça se fait qu'en 2023, il y a encore des gens qui disent « Je fais fièrement partie d'une église qui est homophobe. »
Non, c'est assez fou. Puis bon, le plus triste dans tout ça, c'est que la Ligue nationale essaie d'ouvrir justement à une certaine différence. Il y a une ouverture, mais en même temps, si on voit la réaction de certains joueurs, on voit que cette ouverture-là se rapetisse, et on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on s'en sort pas. Et ce qui est, bon, c'est pas un secret, la culture hockey n'est pas toujours une culture inclusive. Moi-même, Sophie, pendant des années, j'ai eu des billets, parce que moi, je suis un fan de hockey.
Ouais.
J'étais plus fan à l'époque. Maintenant, je suis un peu moins. J'avais des billets de saison, et quand je disais ça à des gens dans mon entourage, des hétéros, ils me disaient, ah, un gay qui aime le hockey.
Comme si les deux étaient mutuellement exclusifs.
Exactement. Donc, c'est comme le hockey et l'homosexualité, on dirait que ça ne va pas ensemble. Puis même en 2023, ça a l'air qu'on essaie de changer les choses.
Oui, mais c'est comme tu disais. Oui, mais c'est comme tu disais, hein, un hétéro qui aime Céline Dion. Ben oui, c'est pas, il n'y a pas juste les gays qui aiment Céline Dion.
C'est assez fou. C'est bien triste parce que ça part d'une bonne initiative au départ de la Ligue nationale.
Ouais.
C'est déjà exceptionnel qu'une ligue de hockey la plus populaire à travers ce monde ait cette ouverture-là. Et le problème, c'est que, bon, puis on dirait qu'il y en a un qui conteste et on dirait que ça ouvre la porte à d'autres. Ah, ben lui, il l'a fait. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que tu parlais des frères Stahl tout à l'heure. Eric Stahl est un ancien joueur des Canadiens. Mm. Il dit, moi, je ne portais pas les couleurs du drapeau LGBTQ. Et le plus drôle, il dit, je ne les ai jamais portées. Et quand tu regardes sur Internet, ben, lors de l'une des soirées LGBTQ+, des Canadiens de Montréal,
il
l'a porté sans problème.
C'est très drôle.
Alors, là, c'est l'influence de son frère et tout. Ils sont maintenant rendus dans la même équipe qui joue, qui change un peu la donne. C'est à voir, mais c'est bien triste tout ça.
Oui, c'est triste. Et c'est d'autant plus triste que, justement, les deux frères Stahl, Eric et Marc, ont dit, dans leur fameuse déclaration, ils ont dit, après maintes réflexions, prières et discussions, nous avons choisi de ne pas porter le chandail de la fierté. OK, attends deux secondes, là. Je veux juste imaginer la scène, OK? Là, t'as les deux frères qui se mettent à prier, puis là, c'est quoi? Le bon Dieu a décidé que, au lieu de s'occuper de la famine en Afrique puis de s'occuper de la guerre en Ukraine, il allait se concentrer sur les frères Stahl et leur envoyer un message en leur disant « Hey, les brothers, hey, bros, ne portez pas le truc, c'est un message personnel de Dieu. » Je dirais quoi? C'est pathétique, pathétique. En tout cas, je suis très contente qu'on se soit parlé de ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier, puis salutations à ton mari. Merci beaucoup.
Certain. À bientôt, Sophie.
Bisous, bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre Nantel-Durocher.
Non, c'est pas une joke.
Sophie Durocher.
Duduche, elle va se défendre.
Guy Nantel.
Ben c'est exactement ça qu'il faut faire.
Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
C'est à s'arracher les cheveux sur la tête.
La rencontre Nantel-Durocher.
Ça va être quelque chose. Dans sa fameuse chanson Le temps ne fait rien à l'affaire, Georges Brassens disait, ben, il y a des petits cons, puis il y a des vieux cons, puis... Vieux con des neiges d'antan, hein? Petit con de la dernière averse. Donc, il y a des cons qui sont vieux. La différence entre les vieux et les jeunes, c'est simplement le fait qu'il y en a qui sont cons et d'autres qui sont intelligents. C'est un petit peu de ça que tu veux nous parler, Guy Nantel. Je m'excuse, mon introduction était vraiment ratée.
Non, mais non. En même temps, c'est tu sais, par la bande, je peux faire un petit peu de pouce là-dessus. C'est-à-dire que il faut arrêter de juger les gens en fonction de leur âge, mais plus en fonction de ce qu'ils apportent vraiment
bon,
comme
ben
idée,
voilà.
Puis le rapport dans la société. Denise Bombardier avait un super article ce matin là-dessus sur la lutte des classes, mais en fonction de l'âge. Puis donc, par ricochet, ben sur le mépris des personnes âgées envers les personnes âgées. Puis selon moi, c'est un des pires écueils qui menace justement l'équilibre et la paix sociale dans notre société. C'est normal qu'on est rendu là parce qu'on est dans une société, plus que jamais en tout cas, qu'on est devenu individualiste. Et donc, on n'a pas vraiment d'empathie pure comme société, mais on a de la démonstration d'empathie. En d'autres mots, on fait souvent les affaires pour soi et on fait semblant d'avoir de la compassion pour certaines classes de personnes en fonction de qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous.
Absolument.
Et qu'est-ce que c'est à nous. Ben oui, puis on se range du côté des lobbies les plus forts. Alors oui, il y a une hiérarchie de la compassion dans notre société, même si bien des gens veulent pas l'avouer. Et plus un lobby est fort, plus il va recevoir l'appui d'un grand nombre de personnes qui sont tout le temps en démonstration perpétuelle d'étalage de vertu, mais qui se rendent pas compte qu'ils ont du mépris puis qu'ils le manifestent pour d'autres catégories de personnes. Puis je te donne un exemple assez concret. T'sais, si on pouvait mettre une note sur 10 à la compassion que tu dois démontrer publiquement, là, ben écoute, si tu veux ramasser des points sur ta carte de compassion, là, ça ressemblerait à la personne qui quitte son pays pour venir vivre au Québec, ça c'est 10 sur 10. Il faut vraiment que c'est payant. La personne qui se sent née dans le mauvais sexe biologique, c'est 9 sur 10. Le religieux qui, lui, ne peut pas s'empêcher de manifester son amour de Dieu en tout temps, ça, c'est 7 sur 10. S'il n'est pas catholique, c'est catholique, c'est 2 sur 10. Mais la personne âgée, je suis désolé, mais qui est abandonnée à son sort puis qui fait rien d'autre de sa vie que d'avoir travaillé pendant toute sa vie pour finalement prendre sa retraite puis offrir à cette société-là, durant toutes ces décennies-là, une société où c'est vraiment agréable à vivre, ben désolé, mais on a à peine 1 sur 10 d'amour puis de compassion pour ces gens-là parce que les vieux n'ont pas de lobby, parce qu'ils se réunissent pas puis parce qu'ils causent pas des vides dans des manifestations.
Oui, ben surtout le dernier, je te dirais là. Tu sais, c'est pas, il y a pas la ligue des vieux avec 4 vieux puis un fax. Il y a pas petite référence ici que comprendront ceux qui veulent bien comprendre. Et il y a pas de, en effet, il y a pas de tu sais, de la même façon qu'il y a le black bloc, ben il y a pas le vieux bloc là, des gens qui se promènent avec des pavés à la main puis qui cassent des vitrines. Et surtout, ben ils ont pas leur entrée, mettons à Radio-Canada ou à la presse ou dans le Devoir. Avec, mettons, un chroniqueur vieux qui passerait son temps à parler des vieux puis à traiter les vieux en victimes puis en train de dire, de tout analyser selon la grille, les vieux sont une victime et peu importe le sujet, je vais trouver le moyen de faire une chronique en disant que les vieux sont victimes des ongles incarnés, etc., etc. Donc, ouais. C'est ça aussi, là.
C'est paradoxal parce qu'on tasse les vieux des médias alors que c'est souvent des gens plus âgés qui écoutent les médias et non pas les jeunes, tu sais, c'est quand même assez intéressant comme phénomène. Puis, tu sais, je veux dire, vendredi, j'étais pas au Monde à l'envers, mais je l'ai écouté. Puis, tu sais, je veux dire, on pose la question, est-ce qu'on doit tasser des boomers de notre société? Je veux dire, j'aurais rêvé d'être là, puis j'aurais réagi fort parce que juste le fait de poser la question dans un débat télévisé, moi, je trouve ça odieux, tu sais, je veux dire, vieillir, là, c'est une condition qui est inéluctable, tu y peux rien, c'est comme être gay, c'est comme être d'une autre origine ethnique, ou n'importe quelle condition qui n'est pas un choix, puis pour lequel, justement, on se bat comme société pour pas discriminer les gens quand ils sont dans une situation qu'ils ne choisissent pas. Puis, est-ce qu'on oserait faire un débat sur est-ce qu'on doit tasser les gays ou les trans ou les noirs ou je sais pas quoi? Jamais de la vie on poserait cette question-là, tu sais. On le fait même pas pour des questions d'intensité de pratique religieuse, qui justement, ça c'est le contraire, tu sais, tu y peux quelque chose dans ta vie décider. Mais on le fait pas. Mais je trouve que la question, moi, est tellement inopportune que j'en ai fait, moi, un numéro d'humour, justement, parce que, tu sais, dans mon personnage de bête et méchant, je trouve ça absurde de se demander est-ce qu'on doit tasser les vieux de notre société. Mais on le fait sans gêne dans nos médias, puis on n'est pas gêné de débattre de ça, puis ça pose cette question-là sérieusement, comme s'il y avait une légitimité en arrière de ça, tu sais.
Oui, mais en fait, je pense que de toute façon, c'est pas pour prendre la défense de personne, mais je pense que c'est que autrement dit, la question, c'était est-ce qu'il est acceptable que dans certains milieux, on tasse les baby boomers? Et c'était beaucoup en référence justement à ce qui s'est passé au gala des Oliviers dimanche dernier, parce que ça a été quand même ça à quoi on a assisté. Puis je sais que tu veux pas revenir nécessairement sur le gala, mais par exemple, quand tu vois que l'hommage à Dominique Michel a été fait en après-midi, puis qu'après ça, quand on questionne les gens de l'Association des professionnels en humour qui organise le gala, qui disent, ben oui, mais c'est parce que Dominique, c'est une personne âgée, puis ça aurait été très exigeant pour elle de faire ça le soir, comme si c'était une petite affaire fragile. On le sait que Dominique Michel, elle aime pas ça, se coucher tard. Ça, c'est correct. Mais le gala de l'humour, il commence à 8 heures. Il y avait moyen de rendre hommage à Dominique à 8h30. Elle serait allée se coucher à 9h. Tout le monde aurait été content. Il y avait tellement de condescendance dans les propos de la personne de l'association. Là, c'était genre, ouais, mais là, qu'est-ce que vous voulez? C'est une vieille. Fait que c'est les vieux, ça se couche tôt. Et tu sais, ça soupe à 5h. Puis c'est couché à 7h30, ce monde-là. C'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est ça qu'on entendait un peu entre les lignes. Moi, je m'excuse, mais tu sais, quand t'as un monument comme Dominique Michel, tu lui rends hommage comme il faut le gala du soir et en plus, l'hommage entre guillemets à Jean Lapointe était bâclé, on l'a vraiment tassé sous le tapis, alors que si c'était quelqu'un de plus jeune qui était mort pendant l'année, je peux te dire que mon Dieu, il serait tout épanché comme des veuves inconsolables, hein?
Je te dirais, ça dépend qui. Mais non, écoute, je pense qu'on se pose sincèrement cette question-là quand même régulièrement dans nos médias. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux? Puis je trouve,
oui,
à chaque fois, moi, je fais comme, ben voyons donc, comme si l'âge en soi était un déterminant. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable d'apporter à la société. Tu as commencé justement la chronique en parlant de ça. Tu sais, je veux dire, tu parles des artistes. Il y a des artistes qui sont excellent, à 85 ans, à 90 ans même. Je veux dire, Charles Aznavour, on n'aurait pas dit sac ton camp, tant qu'il y a un marché, tant qu'il y a du monde qui sont là pour acheter des billets puis que la personne fait plaisir puis apporte du bonheur. Puis il y a d'autres artistes, je suis désolé, mais ils ont 22 ans puis ils sont sans intérêt. Puis,
ben, tout à fait. Moi, c'est quand
je... Ouais.
Oui, c'est pour ça, moi, quand j'entends des fois des gens qui disent, ah, ben là, à telle émission ou à tel truc, ils ont engagé des jeunes, c'est rafraîchissant, ça va renouveler le truc. Je m'en fous que ce soit rafraîchissant puis que la personne ait 22 ans. Parle-moi de sa compétence et de ses connaissances sur le sujet sur lequel on va demander à cette personne-là de s'exprimer. En quoi le fait d'être jeune, c'est une caractéristique qui fait que c'est pertinent? Je veux dire, moi aussi, j'adore. Ici, à Cube, on est entouré de gens jeunes, mais ils sont choisis pas juste parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont compétents. Viens pas me dire, on les a engagés parce qu'ils étaient jeunes. Non, dis-moi, ils ont été engagés parce qu'ils sont jeunes et compétents. Puis même, je te dirais, on devrait mettre le mot compétent avant le mot jeune. Ça devrait être le premier critère.
En tout temps, on s'en fout de l'âge. On s'en fout carrément parce que, évidemment, bon, l'expérience compense pour la vigueur de temps en temps que tu as un petit peu moins, là, mais reste une chose, c'est que ça prend un peu de tout. Tu sais, je reviens sur le débat. Tu sais, Richard, à un moment donné, il disait, ben, c'est la loi de la jungle, c'est quelque chose de bien normal. Mais tu sais,
c'est un baby boomer, en plus.
Je comprends le sens de ce qu'il dit. Ouais. Mais il faut pas mélanger, il faut pas confondre la légitimité de se battre pour faire sa place dans société, puis imposer des idées nouvelles et l'idée de demander aux vieux de se fermer la gueule puis de disparaître. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. On n'a jamais vécu d'une société qui est autant inclusive qu'aujourd'hui, ou en tout cas qui se prétend inclusive, mais aussitôt qu'on veut insulter quelqu'un, tu remarqueras, il y a systématiquement le mot vieux dedans, tu sais. Mm-hmm. Vieux cochon, vieille folle, vieux fini, on gêne pas pour faire ça, tu sais.
Ouais,
on gêne pas pour toujours attribuer la vieillesse, y attribuer une connotation de comme une chose qui est merdique en soi.
Ben, je vais te le dire, à chaque fois que j'ai été prise dans des controverses, à chaque fois, la controverse avec la chanteuse dont j'ai pas le droit de prononcer le nom, la controverse avec les drag queens, à chaque fois qu'il y a eu une controverse, il y a des jeunes qui m'écrivaient. Leur moyen de prédilection, c'est Instagram. Puis c'était « Prends ta retraite, la vieille, puis décrisse, puis décalisse, puis va-t'en, puis prends la porte, puis on a hâte que tu partes à la retraite, puis tout ça. » Mais attends deux secondes, là. Je veux dire, c'est quoi le rapport avec mon âge?
Ben moi, je vais te dire, Sophie, en tout cas, puis tu sais, là, justement, peut-être avoir l'air d'un vieux mononcle, mais chez nous, là, on n'était pas officiellement inclusif dans ma famille, mais maudit, on était respectueux envers les plus vieux, puis je pense que c'était c'était plus vrai dans ce temps-là. Je dis, dans un magasin, là, tu servais quelqu'un de vieux, là, tu disais pas hey, tu veux-tu un sac, monsieur?
Ben oui.
Là, ça passait pas, ça aurait pas passé. Puis nos vieux, on allait y visiter de temps en temps, puis je veux dire, si j'avais laissé moi sous-entendre que la génération précédente servait à rien, je te garantis que j'aurais mangé une claque en arrière de la tête par mon père, puis qu'il m'aurait bien fait comprendre la notion de respect. Qu'est-ce que tu veux, c'était de même à l'époque non inclusive, mais je veux dire, tu sais, juste en humour, là, moi, là, je te jure, j'avais une admiration sans bord pour peu importe la personne qui était. Puis même peut-être pire que ça. Je me souviens dans le temps, en début de carrière, je faisais les démons du midi, là.
Ouais.
Mais non seulement j'avais du respect pour les Gilles Latulippe puis René Pérus, ça, mais même là, je rencontrais du monde, René Martel, Suzanne Lapointe, Fernand Gignac. Écoute, j'étais absolument fier de faire partie de la même ligue, de la même affaire. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Les temps semblent avoir changé, puis on dirait qu'aujourd'hui, on considère que les vieux ne servent plus à rien, puis il va falloir s'y faire parce qu'on est une société de plus en plus vieillissante. Fait qu'il va falloir affronter ça avec un peu plus de respect et de dignité, je pense.
Ouais, mais tu sais quoi? Je me console en me disant, de toute façon, les jeunes, ils auront beau gueuler contre les plus vieux, il reste que c'est quand même avec leurs impôts qu'ils vont payer pour les CHSLD dans lesquels on va aller croupir. Fait que voilà. On va se venger de cette façon-là. Hey, merci beaucoup, Guy Nantel.
Ça marche, à bientôt.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débute.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Alors, c'est bientôt, en fait, c'est même déjà commencé, le temps des cabanes à sucre, et elles sont affectées, les cabanes à sucre, par le phénomène du no-show. Alors, c'est une expression anglaise, je l'explique parce que je pense qu'il y a toujours un équivalent français. C'est des gens qui ne se présentent pas, qui font une réservation, mais qui, à la dernière minute, très souvent, ne se montrent pas le bout du nez. Eh bien, il y a des gens qui ont décidé de prendre les choses en main. Entre autres, Richard Lessard, qui est copropriétaire de l'érablière du lac Beauport. Monsieur Lessard, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ben moi, ça va très bien. Vous, la saison s'annonce comment en 2023?
Ben nous, à Québec, présentement, ben, on a encore beaucoup de neige. Le temps des sucres commence. Ce qui est le fun, c'est qu'on s'attend à une très belle saison là, avec la belle température qui s'en vient, là.
Bon, ben tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, que 2023 soit un bon millésime. Il reste que le phénomène des gens qui réservent et ne se présentent pas, ça affecte beaucoup les gens dans les érablières. Vous, les années passées, dans quelle mesure ça vous a causé des soucis, des gens qui se montraient pas le bout du nez?
Ben nous, avant la pandémie, on savait beaucoup de gens à l'érablière, puis les gens souvent réservaient pour des groupes de vin. Puis on confirmait 24 heures à l'avance les réservations pour les groupes. Tout était beau, les gens étaient tout confirmés. Puis quand le matin même arrivait, ben là, il y en avait 4 de malades, 2 qui pouvaient plus venir, il y avait des empêchements. Puis on n'avait aucun engagement signé avec eux, aucun contrat de réservation, qui fait que on n'avait aucun pouvoir d'obliger les gens à payer les gens qui étaient non présents, les no-shows. Et quand on avait des clubs sociaux, les gros groupes de 20, 40, 50, 100 personnes, ben eux, on avait des contrats de réservation. Les gens s'engageaient à payer les confirmations, les gens confirmés 24 à 48 heures à l'avance.
Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette année?
Ben, suite à la pandémie, vu que t'as des sucres s'en venaient, puis la pandémie, ça a été très dur, on a décidé d'offrir des réservations en ligne. Et on a trouvé un système de réservation avec Libro qui fait que les gens doivent réserver le billet à l'avance. Quand les gens nous appellent, ils veulent réserver pour les fins de semaine à venir. Fait qu'on dit aux clients, vous devez aller réserver en ligne vos billets pour votre repas cabane à sucre. Je vous explique, c'est comme un billet spectacle. Fait que les billets sont réservés, sont non remboursables ni échangeables. Et quand les gens ont payé, ben ils vont signer, ils vont cocher une petite coche qui indique, en terminant, en cliquant sur le bouton vert suite, vous acceptez en se faisant que vous ne pouvez pas obtenir un remboursement ou un échange après achat d'un billet. Cet achat est non remboursable, mais peut toutefois être transféré à une date ultérieure sous condition.
D'accord. Et c'est quoi les conditions, M. Lessard?
Ben, les conditions, c'est que soit qu'on doit remplacer les gens, fait que, comme la semaine passée, j'ai un groupe de 10 qui voulait annuler à la dernière minute. Ben, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais mettre vos billets en ligne Et si je réussis à les vendre, je vous transfère une date selon les disponibilités que j'ai. J'ai réussi à vendre les billets. J'ai transféré le client une date un petit peu plus loin, deux semaines après.
Mais j'aime beaucoup le parallèle que vous avez fait, M. Lessard, avec les gens qui achètent un billet de spectacle. Il n'y a personne qui viendrait à l'idée, mettons, j'achète un billet pour aller voir, Robert Charlebois, peu importe, là, de me dire le jour même, « Ah, j'ai mal à la tête, chérie, on va annuler les billets. » Ben non, les billets sont achetés, tu y vas. Donc, c'est de mettre un spectacle sur le même pied d'égalité parce que vous, vous avez des dépenses. Si les gens viennent pas, ça représente des pertes énormes.
Ben, en fait, semaine passée, il y a juste un client qui a réservé à la dernière minute sans carte de crédit. Il était 9 personnes. Puis le client s'est même pas présenté. J'ai pris la peine de le rappeler et de demander s'il venait toujours pour le repas de 13h. Il était 13h45. Ouais, il me dit, en fin de compte, je pourrais pas y aller. J'ai répondu au client, c'est malheureux. J'ai dit, on a refusé des gens tout l'avant-midi. Et en plus de ça, vous vous présentez pas, vos places sont réservées, vos tables, les chaises vous attendent, puis je payais pas pour... il était pas engagé, fait que le client, ben, il a tout simplement annulé sans condition. Puis j'ai perdu mes 9 places.
Ça représente combien comme perte financière pour vous? Mettons une dizaine de personnes qui annulent, mais qui ont pas réservé avec Libro, puis à ce moment-là, c'est une perte de combien de sous pour vous, là?
Ben, un repas de cabane à sucre adulte, c'est 50$ taxe pour boire inclus. Fait que ouais. Si les clients, ben, c'est 10 adultes, ben, je viens de perdre 500$ directement. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'à la fin des sucres, vers la fin avril, il y a plus de neige. Les gens vont plus à cabane à sucre, puis ça, quand on a fait nos réservations en ligne, ben ça faisait partie des conditions de réservation. Parce que j'ai déjà vécu des années que fin avril, il n'y a plus de neige. Fait que je peux avoir 3, 4, 5, 600 personnes qui ont réservé. Puis suite à la température, il fait beau soleil. Ah, ben en fin de compte, on n'y ira pas. Le temps des sucres est fini, puis il fait trop beau. Je vais rester chez nous, je vais racler mon terrain, je vais aller faire du vélo. Fait qu'à ce temps, ben quand les billets sont réservés, payés, tout le monde est présent. En fin de semaine passée, il y a eu une belle tempête de neige dimanche. J'avais au pas loin de 600 personnes de réservées pour le repas du midi avec mes deux services. C'est drôle, tout le monde est venu, personne n'est absent, tout le monde a payé.
Ouais, mais ça fait vraiment une énorme différence. Est-ce que vous avez des fois des gens qui refusent, c'est-à-dire des gens qui sont furieux et qui sont fâchés contre vous que vous utilisiez le système Libro et que les gens soient obligés à ce moment-là de payer avec leur carte de crédit à l'avance?
J'ai des gens qui sont vraiment pas contents, qui me disent, moi, M. Lessard, je veux y aller, je suis un client régulier, on veut y aller, on est 10 personnes. Ben, j'ai dit, cette année, les conditions de réservation, et vous réservez en ligne, puis vous payez vos billets. Je vous explique, c'est comme un spectacle. Tu vas aller voir le spectacle de Céline Dion, ben, tu réserves tes billets, tu as tes billets, tes places sont garanties, puis si à la dernière minute, tu ne peux pas y aller, ben, vends-les à des amis, donne-les, puis c'est pas mon problème. Moi, tes places sont réservées, puis la quantité de monde qu'on refuse, on peut refuser des centaines de personnes par jour. La fin de semaine qui s'en vient, on est complet. Là, j'ai tout le monde qui appelle, des milliers de personnes. Ah, ben la cabane. Ah, ben malheureusement, on est complet. Puis je sais que les gens qui vont venir vont être présents parce qu'ils ont payé. Avant, c'était des groupes, des organismes. Le pire organisme que j'ai vu, moi, il avait réservé pour une centaine de personnes. Une fin de semaine, il avait envoyé des inscriptions. Tout le monde s'est inscrit. Cette journée-là, il pleuvait. Mais qu'au lieu de 100 personnes, il y a eu 25 personnes.
Oh! 75
non,
annulations!
Ça se peut pas, là. J'ai aucun engagement, j'ai aucun contrat, puis les gens étaient sérieux. On va réserver, on va être présent, on va être là, puis on est une association, puis on va tout être là, là. Mais, ah, non, les gens ont décidé de pas venir.
Hey, je viens de le calculer vite, là, avec à la main, comme on dit, 75 fois 50, vous avez perdu 3 750 $.
T'en plein ça, mais on apprend par nos erreurs.
Incroyable. Et surtout, M. Lessard, c'est que, bon, on va se le dire, hein, Vous avez beau vous appeler Richard, on se met pas Richard en faisant une cabane à sucre, là. C'est pas ça qui vous met riche, là.
Non, parce que la cabane à sucre, on se le cachera pas, ça dure 6 semaines par année. C'est mi-mars, là, le temps des sucres commence. Fin avril, il fait beau, puis c'est terminé. On a 1 mois et demi à 2 mois maximum pour faire notre argent dans la restauration pour l'année. Nous, heureusement, on est une cabane à sucre touristique qui fonctionne toute l'année, puis heureusement, l'été, et même au mois de février dernièrement, Les conditions de réservation sont les mêmes. Les gens réservent le billet, sont présents, que ce soit une clientèle touristique. Et fait qu'on a appris par nos erreurs. Fait qu'à ça, ben, tu réserves ton billet, tu le payes. Même
ben oui.
Les amis, j'ai des amis
ah,
qui
oui.
peuvent venir.
Hey, vous êtes dur en affaires, vous?
J'ai beaucoup d'amis qui sont pas fiables. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas fiables.
Ah, ben là!
Ah, on va être 20, puis ils arrivent, ils sont 14, puis 15.
Ah, ouais.
Donc, j'ai dit, tu veux réserver, tu vas sur Libo directement.
J'adore ça. Vous êtes dur en affaires, même avec vos amis, mais des fois, c'est ça qu'il faut faire, surtout si on a des amis qui sont pas fiables. Juste une question en terminant, M. Lessard. Moi, je connais pas ça, Libro. Ben, je connais ça parce que des fois, je réserve, évidemment, puis on passe par Libro. Est-ce qu'il vous charge des frais? Est-ce qu'il vous impute des frais? Est-ce que ça vous coûte de l'argent de passer par Libro?
Oui, Libro, il y a des frais pour le système de billetterie.
Ouais.
Sauf que ce qui est le fun, c'est que quand on calcule l'entrée puis les pertes, ben c'est plus payant de payer un frais Libro de exemple de 2$ ou 2,50$ par personne qu'avoir des groupes de 20 à 50$ qui se présentent pas.
C'est sûr, c'est mathématique,
il y a
hein, monsieur Lessard.
Même une cabane à sucre que je connais dans le coin de Montréal, qui est cabane à sucre Leclerc, eux cette année, ben ils fonctionnent sans système de réservation. Puis en fin de semaine passée, il y avait une tempête de neige. Puis eux, ben il y a des gens qui appelaient à la dernière minute, ah ben on pourra pas y aller. C'est gentil d'appeler. Sauf que le temps des sucres, ça dure un mois et demi. Fait quand les gens veulent venir à la cabane à sucre, c'est plein, ben on va y aller l'année d'après. Puis les billets, ben il peut pas les rebooker, le monsieur, parce que c'est à la dernière minute, puis les gens planifient leur réservation. Mm. Et en plus de ça, ben ils annoncent pas beau, puis ils annoncent de la neige, puis une tempête de neige. Fait que c'est vraiment dur, mais système de réservation, de billetterie, tu réserves, tu payes, ben les gens sont présents.
Absolument. Ben écoutez, je suis très contente de vous avoir parlé, Monsieur Lessard. Puis moi, je pense que vous faites la bonne affaire. Et à un moment donné, les gens, faut juste les éduquer à un petit peu de respect. Puis si ça passe par le porte-monnaie, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je rappelle que vous êtes copropriétaire de l'érablière du lac Beauport et que pour réserver chez vous, ben faut passer par Libro parce qu'à un moment donné, ça suffit de se faire niaiser. Merci beaucoup, Monsieur Lessard.
Bon plaisir, Madame Durocher.
C'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette à la recherche. J'espère que vous êtes bien sucré le bec avec nous à Cube Radio. Merci et à très bientôt.
Cube Radio.